La grotte de Roquetoul, écrit par Ernest du Laurent de la Barre. Légende. Dans une excursion au pays de Léon, commencée au bord de la mer, du côté de Plonéour XIII et terminée au pied de la montagne d'Arèze, un antiquaire et un amateur de légendes de ma connaissance passèrent toute une belle journée de la fin d'octobre à visiter le bourg de Guimiliau et ses environs. Ils examinèrent avec l'attention qui convient à des gens de l'art l'église gothique, le calvaire en granit qui s'élève dans le cimetière, où l'on remarque, entre autres curiosités, Catel Colette. Catel, la fille perdue, la pécheresse bretonne traînée par deux démons et les fameux fonts baptismaux. Le soir même, quoique le vent se fût élevé, abattant déjà sur les landes une brume humide et froide, les deux voyageurs voulurent pousser bravement jusqu'à la grotte de Roquetoul. Le sergent d'église, vieux paysan qui sonnait depuis 50 ans les cloches de la paroisse, consentit, non sans quelque étonnement, mêlé d'une certaine dose de terreur, à leur servir de guide au terrible souterrain. Déjà le soleil devait approcher du sommet des collines lorsqu'ils aperçurent l'énorme et splendide masse de Roquetoul. Ils arrivaient par le bas de la coulée. La sombre ouverture de cette grotte de quartz, béante sur la pente rapide, les dominait d'une grande hauteur. Elle se détachait vigoureusement au milieu des roches blanches qui en forment l'édifice. En l'apercevant ainsi, on dirait le portique en ruine d'un temple de géants dont les débris ont roulé de tous côtés sous l'effort des âges passés. L'aspect de ces lieux, surtout le soir, a quelque chose d'étrangement imposant, de terrible même. Aussi faut-il dire qu'à ce moment de l'expédition, bientôt nocturne, le guide, le brave Bedeau, n'avançait plus qu'à l'arrière-garde. Sans tenir aucun compte des terreurs du sergent d'église, et après avoir allumé une lanterne apportée à cet usage, les explorateurs entrèrent dans l'intérieur de la caverne. Rien n'est plus fantastique que ce spectacle, vu la nuit, au reflet de 1000 couleurs de la lumière sur les parois humides et polies des rochers. L'antiquaire était au comble du ravissement. Son ami flairait comme une odeur de vieille légende dans ce sombre repaire. De temps à autre, des oiseaux nocturnes, effarouchés par la clarté du fanal et par le bruit des pas, s'enfuyaient à tire-d'aile ou voletaient contre la voûte au grand effroi du pauvre Bedeau qui récitait en breton les litanies de tous les saints. Après avoir parcouru 30 ou 40 pas, on se trouve arrêté au fond de la grotte. Le passage se rétrécit tout à coup et devient tellement étroit qu'il paraît impossible de s'avancer plus loin. Nos voyageurs, satisfaits de leur expédition, s'assirent sur des rochers roulés à terre et reprirent la conversation avec le Bedeau qui leur fit le récit que l'on va lire. Je ne sais depuis combien de centaines d'années l'événement est arrivé, mais il est arrivé, cela est certain, puisque le coq chante encore sous l'autel de Saint Guimiliau la veille de la Toussaint à minuit. Oui, la chose est arrivée, à preuve que mon parrain, Jean Castel, que Dieu ait son âme, l'avait entendu dire une fois dans sa vie. Pour lors donc, le sire de Guimiliau avait un fils unique, nommé Alanic. Alanic était jeune, riche et beau. Il était, de plus, vaillant autant qu'aucun autre seigneur de ce temps-là. Il y avait à la même époque, dans la paroisse de Lampol, un seigneur avare et méchant qui, ayant perdu son argent et ses terres en prouesse de mauvais aloi, n'avait pour toute ressource et tout bien qu'une fille, nommée Fina. Belle, belle comme un pré de mai, et encore plus rusée que belle. Je vous ai dit que Fina était le seul bien qui fût resté à son père. Voici comment. Tous les jeunes seigneurs qui avaient aperçu une seule fois un des yeux bleus de la blonde fille en devenaient épris à mourir. Le père disait à l'amoureux « Donne-moi d'abord 500 écus de bel argent. »« Bon, mais ce n'est pas assez, l'ami. Rapporte-moi le trésor qui est au fond de Roquetoul. » Et Fina sera ta moitié de ménage. » Et voilà le pauvre garçon laissant au manoir de Lampol son cœur et sa bourse de se mettre en route au clair de la lune, vu que dans le jour le trésor n'eût pas été visible, à ce qu'on disait. Il entrait dans le souterrain, à la nuit, seul, sans autres armes qu'une pelle et une torche. Que se passait-il alors? Aucun de ses aventuriers n'est revenu le dire. C'était un deuil général à 20 lieues à la ronde. La moitié des seigneurs du Léon avaient perdu leurs aînés dans ce souterrain de malheur, si bien que Fina commençait à avoir peur de rester toute sa vie penhérès, héritière à marier. Un beau jour, pourtant, Alanic, qui avait aperçu Fina au pardon de Lampol, déclara au sire de Guimélio qu'il mourrait de chagrin s'il ne mettait pas une bague d'or au doigt de Fina. Le bonhomme essaya de détourner son fils, mais tout fut inutile, et il fallut bien y consentir à la fin. Voilà donc Alanic parti pour le manoir de Lampol. Ce n'était pas chose facile que d'y entrer. « Qui est là ?»«
C'est moi, Alanic. »«
Alanic, un vagabond. Qu'est ici, Polydore ?»«
Mais je suis Alanic de Guimélio, vous savez ?»
« Nous n'avons rien à démêler avec toi, Alanic de Guimélio, » répondit encore le tailleur barbe rouge, jambes tortes et figure de singe, qui gardait la porte du manoir, assis sur ses talons, comme un bouledogue.
« Pourtant, je voudrais bien parler au seigneur Lampol, » répliqua Alanic un peu déconcerté.
« Détale, détale vivement, mauvais garnement. D'ailleurs, je sais ce qui t'amène. Nous n'avons pas besoin de toi au manoir. » Il n'est venu ici que trop de vagabonds se moquer de ma noble maîtresse. Nous n'en voulons plus. »
Il est bon de vous dire que le tailleur, Barbe Rouge, était sorcier et qu'il savait ce qu'Alanic venait chercher à Lampol. Et, comme le misérable singe mitonnait depuis quelque temps le projet insensé de garder Fina pour lui, oui, ma foi, pour lui-même, il avait résolu d'y conduire à l'avenir tous les prétendants. Il craignait qu'à la fin, quelque malin compère ne découvrît le trésor caché qu'il projetait aussi de fouiller pour son compte, dès que l'occasion lui semblerait favorable. Mais la penhérèse avait entendu les paroles courroucées du tailleur. Elle venait justement à ce moment-là du côté de la porte pour voir un beau Justin que le singe était en train de lui broder pour le prochain pardon de Saint-Égonec. Elle regarda par le petit Judas du portail et vit notre joli garçon sur le point de s'en aller. Il paraît qu'Alanic était de son goût, car elle ne fut pas longtemps à repousser Barbe Rouge dans son taudis et à ouvrir la porte au jeune homme, qui tomba à ses genoux en lui disant « Ma chérie !» Inutile de compter tout ce qui s'ensuivit, si ce n'est qu'au bout de 3 jours, Alanic obtint la promesse de la main de Fina, s'il rapportait au papa le trésor de Roquetoul. Fina, domptée par la douceur de son fiancé, eut beau demander à son père que cette condition fût oubliée cette fois, le vieux n'y voulut point consentir. Il fallut bien se résigner. Mais Fina ne s'appelait pas Fina pour rien. Elle savait que le tailleur était sorcier. Maintes fois, elle avait eu recours à ses maléfices et n'ignorait pas que le singe consultait, pour deviner l'avenir, et les bons endroits où trouver des louzous, un vieux coq rouge qu'il gardait en mue dans son taudis. Elle résolut donc de s'en emparer. Un soir, que Barbe Rouge avait, par ses soins, avalé un coup de trop, elle ouvrit la cage, emporta le fameux coq et conduisit son fiancé jusqu'à Roquetoul. Alanic lâcha devant lui l'oiseau de la passion, puis, ayant dit Kenavo « au revoir » à sa douce, qui avait les larmes aux yeux, il pénétra dans le souterrain. Fina s'en revint triste à la maison. Elle était bien changée depuis qu'elle avait un véritable attachement dans le cœur. la nuit passa là-dessus, puis le jour et la nuit encore. Le surlendemain, Barbe Rouge, il avait deviné le tour, vint sournoisement dire à sa maîtresse qu'à Guimelio, depuis la veille, on entendait un coq chanter sous l'autel. Fina se vit dans l'obligation d'écouter les propos du compère et de lui parler bellement afin d'en tirer quelque chose. Barbe Rouge lui apprit qu'Alanic s'était perdu dans la caverne parce qu'il n'avait pas emporté un certain collier magique. Ce collier, fait d'argent et de perles fines, était en la possession du singe, mais il avait juré par les cornes du diable de ne le donner qu'à celle qui consentirait à l'épouser, lui, Barbe Rouge. Fina sentit au premier moment de sa fureur une grande envie d'étrangler le misérable. Mais nous savons qu'elle avait de la ruse dans sa cervelle de femme. Aussi s'apaisa-t-elle tout à coup et lui répondit-elle de sa plus douce voix d'oiseau trompeur. « Ma foi, Barbe Rouge, tu es bien laid, je l'avoue, mais tu as tant d'esprit que je serai ta femme si tu m'aides à trouver le trésor de Roquetoul. »
« Le trésor ? » dit l'autre. « Nous le trouverons, belle fille, et je mettrai un louis d'or sur chacun de tes yeux bleus, sur ta bouche de rose aussi, et des piles dans tes mains et à tes pieds. »«
C'est charmant, » reprit Fina en riant. « Et moi, je t'appellerai Barbe d'or, ha 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 !» Elle s'en donna de rire malgré sa colère, et le tailleur passa plus d'une heure avec elle, l'idiot, à se griser de vin et de faux amours. Le méchant dupeur, dupé à son tour, ressemblait en cela à tant de gens de ce monde qui, même au moment de se marier, jouent au malheur, jouent au fin, et se trompent mutuellement. La nuit venue, la lune levée, ils partirent pour le souterrain. Jambe Torte avait bien de la peine à suivre la maligne créature qui marchait vite afin de l'essouffler. C'était comique de voir ce tortique trottant après la belle fille comme un carlin après une comtesse. Enfin, ils entrèrent dans la grotte. Le collier magique brillait à la main de Barbe Rouge. Et l'on passait aisément par tous les détours. La conversation, il faut le dire, allait son train et le singe amoureux en était déjà rendu à sa 12e déclaration lorsque Fina lui dit « Tu causes fort bien, assurément, Barbe Rouge, mais je veux une preuve, une seule preuve de ta confiance. »«
Dis si tu le désires, » répliqua l'impudent coquin.
« Une seule me suffira. Nous sommes promis, n'est-ce pas ? Tu peux donc me confier ce collier qui te gêne pour courir ?»«
Hein ? Je ne sais pas, » fit Barbe Rouge en regardant de travers.
« En ce cas, rien de fait, » reprit la rusée d'un air résolu.
« Te perdre ? »
s'écria le tailleur consterné.
« Non, non, par les cornes du diable !»
Et il plaça le brillant collier sur le cou blanc de la jeune fille. « Merci, » lui dit-elle. « Maintenant, voici un passage très étroit. Passe le premier pour me montrer la route. Sois tranquille, je saurai bien t'éclairer. Allons, passe !» « Je le veux !» Le passage, en effet, devenait très dangereux. Il fallait descendre des marches inégales et une bonne lumière n'était pas de trop. Barbe Rouge s'avança en hésitant. Alors, Fina porta les mains à son cou afin d'intercepter les rayons du collier magique. La grotte devint à l'instant noire comme une tombe, si bien que le tailleur trébucha sur les pierres et roula au bas de la pente dans le fond d'un trou plein d'eau.
« À l'aide ! À l'aide ! » criait le misérable.
« Je me noie ! Rends-moi mon fiancé !» disait Fina en éclairant la caverne. « Rends-moi Alanic ! Malheur, elle m'a trahi ! À l'aide, je meurs ! Rends-moi mon fiancé, te dis-je !
Par pitié, tends-moi la main !» criait encore Barbe Rouge. « Nous le retrouverons, car j'entends la voix de mon coq !
Dis-moi où est Alanic ?
« Tu dois le savoir, traître ! Il est là, derrière ces rochers. »«
Est-il vivant encore ?»«
Il est pâle comme trépas. J'étouffe, hâte-toi de nous secourir, moi d'abord !»
Fina, au comble de l'angoisse, s'élança dans le passage difficile. Elle resta sourde, vous le pensez bien, au dernier cri de Barbe Rouge, qui râlait en buvant de l'eau, et tournant de tous les côtés les rayons du collier magique, elle découvrit bientôt celui qu'elle cherchait. Alanic, pâle et couvert de sang, était étendu sur la terre. La vue de Fina le ranima un peu. La jeune fille lui donna à boire une liqueur qu'elle avait apportée et pansa les blessures qu'il s'était faites en tombant sur les pierres. Si vous voulez apprendre la fin de l'histoire, vous saurez que les fiancés réussirent, après bien des peines, à sortir du souterrain. Par exemple, ils y laissèrent trois choses : le trésor, le coq enchanté et le sorcier mort. Trois choses assez méprisables, comme tous les biens et les intrigues de la terre, et qui s'y trouvent encore à ce qu'on dit. Ces choses, on ne vient plus les chercher ici. Mais hélas, que de gens en ce monde qui convoitent d'autres trésors par des sentiers tout aussi ténébreux. Alanic et Fina vécurent-ils heureux? On le dit du moins. Le père, avare, n'étant plus détourné par les mauvais conseils de Barbe Rouge, fut apaisé au moyen d'une belle poignée d'or, et les noces se firent à Lampol. Vous avez vu dans l'église de beaux fonts baptismaux. Ce fut Alanic qui les fit construire pour le baptême de son premier-né. Rennes, le 7 mai 1871.